Quartier
de vie.
Une émission proposée par
Résonance Sonore.
En 2011, une étude a été réalisée par l'association Parole de Femmes sur les spécificités des violences conjugales en milieu rural. C'est ainsi qu'est né le dispositif des relais ruraux, créé et animé par la structure tarnaise. En maillant le territoire de personnes ressources, le réseau se structure pour que les femmes accèdent à l'information, bénéficient d'un accompagnement et surtout sortent du cercle des violences. Depuis 2016, plus de 200 personnes ont été formées dans le Tarn et une centaine d'entre elles continuent de s'investir activement. L'idée a essaimé dans d'autres départements et est désormais labellisée par la Fédération Nationale Solidarité Femmes. Mais concrètement, comment cela se passe-t-il sur le terrain? Quelles sont les spécificités pour s'en sortir dans les campagnes? Qu'est-ce qui freine? Car aujourd'hui, alors que 30% de la population vit en zone rurale, la moitié des féminicides y ont pourtant lieu. Alors partons à la rencontre de celles qui s'engagent, bénévoles ou salariées. Et pour nous, l'aventure commence à Gaillac, au local de Parole de Femmes, un vendredi matin, durant ce qu'elles appellent la parenthèse.
Bonjour.
Ah,
bonjour.
Ça va bien?
Oui, et vous?
Oui.
Désolée, j'arrive en plein. J'ai cru voir qu'on pouvait venir même si on n'était pas là pile poil à l'heure.
Mais bien sûr.
C'est entre 9h30 et 11h30.
On vient quand on veut, on part quand on veut.
Qu'est-ce que c'est la parenthèse? Eh bien, c'est pensé comme un temps d'accueil collectif autour du café, de quoi un peu peut-être petit déjeuner aussi, pour rencontrer l'association, se rencontrer entre femmes, sortir un peu de l'isolement, justement, de la difficulté parfois à pas être toujours bien chez soi parce que justement il y a de la violence et d'aller chercher des ressources ailleurs.
Jeannie Cloré, responsable de l'association Parole de Femmes.
Des ressources que l'association peut permettre d'avoir, mais aussi les femmes qui participent et qui viennent chercher aussi des choses à l'association. C'est vraiment cette idée un peu de rencontre, de convivialité, et puis de faire en sorte que ça puisse aussi être un espace où se créent d'autres choses, d'autres femmes qui vont se voir après ce moment-là, ailleurs, en dehors du temps. Il me semble en tout cas qu'il y a des connexions qui se font.
Là, j'ai pas eu le temps de rappeler, mais c'est vrai que tu m'as appelé lundi, oui, j'étais en rendez-vous avec l'assistante sociale. Et puis oui, j'ai eu une grosse semaine chargée. Bon, on discute de ce qui nous vient.
Exactement.
Voilà. On évite de parler des problèmes qu'on a à la maison quand même.
Ben, ça dépend.
Ça dépend. La dernière fois, on en a beaucoup parlé.
Tout est OK.
Ouais. Et puis, bon, on rencontre du monde. C'est bien. On boit le petit café, on mange les petits croissants. Ça fait sortir de la maison, surtout, c'est bien. C'est mon échappatoire de venir ici. Quand j'ai danse-thérapie, art-thérapie, café. Voilà, j'aime bien. Rendez-vous avec Marie-Lou, rendez-vous avec Karine, partout sur mon calendrier. Ça fait partir de la maison, ça fait du bien.
Et comment vous avez découvert l'association?
L'association, c'est parce que j'ai fait une demande de logement social qui m'a été refusée parce que j'avais pas de revenus. Donc je travaille pas. Mais ni chômage, ni RSA, ni rien du tout. Et c'est la dame de ces logements sociaux qui m'a dit « Allez, appelez Parole de Femmes ». Donc j'ai appelé, j'ai eu un premier rendez-vous avec Marie-Lou, et puis tout s'est enchaîné parce que c'est la première fois que je me suis sentie comprise, pas jugée, où on m'a pas dit « Mais c'est rien, il y a pire que toi ». Il y a des femmes qui se font fracasser, qui finissent à l'hôpital... Même pour moi, si c'est dur, parce que je vis surtout une violence psychologique, moins physique, j'ai moins de coups. Donc c'est surtout de la violence psychologique. Mais ici, on m'a fait comprendre que ça pouvait briser autant.
Et puis c'est interdit par la loi aussi.
Oui.
Et c'est dur à faire reconnaître, malheureusement.
Ouais. Et du coup, j'ai un petit 6 ans. où l'association a fait un... Je ne sais plus comment ça s'appelle.
Une information préoccupante.
Une information préoccupante pour mon petit 6 ans, par rapport à monsieur qui est tout le temps... c'est vrai que pour le petit, c'est pas facile, parce qu'il entend des grossièretés toute la journée, « et ta merci, et ta mère ça ». Donc le petit ne peut pas être bien.
Et vous avez fait une demande de logement social ?
Oui.
Qui a été refusée ?
Oui. Et du coup, j'ai eu rendez-vous à la CAF avec une technicienne et une assistante sociale de la CAF qui m'ont déclaré séparée, même si je vis encore avec, pour que j'ai droit aux aides, pour que j'ai droit au logement social.
En gros, pour pouvoir partir.
Exactement.
Et on peut même dire que...
J'ai un logement. Oui.
C'est génial. Mmh.
C'est pour ça que c'est une très belle journée aujourd'hui.
Alors, moi, j'ai entendu parler de la parenthèse au mois de décembre, tout à fait par hasard. Et je me suis dit, super occasion. Donc, en fait, j'ai déjà fait de l'accompagnement de personnes victimes de violences intrafamiliales. Et c'est un temps que j'avais beaucoup aimé, parce que ça permet déjà de donner un peu de son temps aussi pour des personnes qui peuvent en avoir besoin, et des mini-compétences qu'on peut avoir aussi pour soutenir. Et c'est un temps que j'ai pas pu prolonger pour différentes raisons. Du coup, de venir à la parenthèse, je me suis dit aussi que c'était un endroit qui permet de tranquillement être dans le lien avec d'autres personnes, sans avoir une casquette particulière. Bon, après, c'est vrai que je ne suis pas du tout accompagnée ici, enfin, je ne suis pas accompagnée du tout par l'association, mais j'ai quand même traversé des périodes de violence et de maltraitance. Qui c'est pas forcément intra-conjugal, ça peut être intra-familial, intra-conjugal, tout un tas de choses. Malheureusement, la violence et la maltraitance existent un peu partout. Et je propose aussi de faire du bénévolat, d'aider si ça peut résonner dans l'association, ce sera avec beaucoup de plaisir. Quelques fois où je suis venue ici, j'étais assidue, depuis le début. J'ai commencé au début de l'année, il y a une fois j'ai pas pu venir parce que j'étais malade, mais moi j'ai adoré à chaque fois parce que c'est complètement différent. C'est toujours avec beaucoup de plaisir, je pense, que les personnes se trouvent là, les femmes se trouvent là, et que à partir de soit de conversations tout à fait anodines, soit à partir d'un vécu qui est évoqué, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui émergent, beaucoup de partage, beaucoup de force derrière, beaucoup d'accompagnement, mais tout à fait involontaire dans le partage qui existe. Et moi, à chaque fois, j'ai l'impression que toutes les femmes qui sont présentes sont heureuses d'être là. C'est juste une parenthèse, mais une parenthèse de bien-être, de douceur, de partage, juste de confiance.
Et voilà, donc ça c'est vraiment faire en sorte de créer un espace qui puisse être un tremplin pour d'autres choses. On a la possibilité de proposer des ateliers aussi ces jours-là. Des fois, il y a des personnes qui viennent proposer des choses. Il y a eu du yoga du visage, il y a la réflexologue avec qui on travaille depuis quelques années qui vient. Donc des fois, il y a pas mal de visites aussi pour ça. Il y a eu de l'art floral, voilà. On a ouvert mi-octobre, ce qu'a fait la parenthèse. Une semaine sur deux, parce qu'on a aussi beaucoup, beaucoup de rendez-vous individuels et pas suffisamment de moyens humains pour faire face à toutes les demandes de femmes qui ont besoin d'être accompagnées. Donc voilà, on essaye de diversifier aussi les propositions pour faire en sorte de répondre au mieux à tous les besoins qui peuvent se poser à elles et à leurs enfants aussi. C'est possible de venir avec les enfants. Et on se dit aussi que c'est une manière parfois de rencontrer l'association un peu moins peut-être impressionnante que prendre un rendez-vous individuel. Parce que du coup, soit les femmes nous trouvent par le bouche à oreille, soit par Internet. soit par le 3919 aussi, le numéro national, et puis par les partenaires qui orientent vers nous, comme ça a été le cas. Mais voilà, il faut oser appeler, même si normalement très bien accueilli évidemment au téléphone. Il faut se déplacer pour un rendez-vous individuel, pour raconter son histoire, et c'est pas toujours facile parce que il y a quand même un invariant dans ces problèmes de violences faites aux femmes, c'est la honte et la culpabilité qui peuvent être très fortes. Et bon voilà, et du coup, faut passer un peu ces étapes-là des fois, et c'est pas facile. Donc la parenthèse, c'est aussi penser comme ça. C'est se dire que peut-être des fois, passer la porte d'un café, de voir un peu.
Mais vous nous déculpabilisez très vite quand même. Non, mais c'est vrai, parce qu'on est vite. Quand on vient, on se dit est-ce que c'est ma place ? Et en fait, on est tellement bien entendu, comprise, pas jugée, et on nous dit vraiment non, en fait. Ce que tu vis, c'est pas normal, que ça nous enlève un poids de culpabilité de venir, et on trouve vite notre place, je trouve. Enfin, moi, ça me fait du bien.
Et vous habitez, vous avez plutôt habité à la ville ou à la campagne, du coup, là,
plutôt la campagne.
Voilà. Et venir à Gaillac, c'était pas compliqué?
Non. Non, non. Non, en plus, j'ai ma voiture. J'ai réussi à m'acheter une petite voiture. Donc, c'est plus, je prends la voiture quand il veut. Parce que ça, c'est pareil, quand il a le cerveau qui se retourne, hop, il planque les clés de la voiture, et le gasoil, c'est pas t'occuper le gasoil, enfin voilà, c'est, enfin, tout est bon pour chipoter.
Les femmes au milieu rural cumulent différentes difficultés.
Céline Roucol, intervenante sociale et chargée de mission ruralité à Parole de Femmes.
Donc l'accès à la mobilité en termes de transport en commun, mais pas uniquement les transports en commun, aussi l'accès à avoir un véhicule personnel, à accéder au permis de conduire, voilà ces choses-là, donc qui génèrent de fait un isolement. Une précarité au niveau de l'emploi, donc souvent des emplois précaires, des horaires fractionnés, qui se cumulent aussi avec des difficultés sur l'accès au mode de garde. Donc ils vont venir encore plus précariser ces femmes qui sont souvent donc, celles qui s'occupent des enfants et qui donc vont moins travailler, enfin voilà, avec un petit peu le serpent qui se mord la queue, mais de toute façon, les modes de garde étant ce qu'ils sont en milieu rural, c'est beaucoup plus compliqué. Ça génère de fait des emplois d'autant plus fractionnés ou des congés, voilà, un congé parental mais très peu rémunéré, une aisance financière qui n'est pas du tout à la hauteur des besoins et qui ne les sécurise pas du coup au moment de quitter un conjoint violent potentiellement. En fait, c'est tous ces facteurs-là, quand on vient les regarder dans un contexte justement où on parle de violence dans le couple, constitue en fait un double frein au départ, qui finalement renforce finalement cet effet d'isolement de ces femmes. Et un autre facteur qu'on repère et qui est complètement lié à ce qui se passe, ce qui se joue en milieu rural, c'est justement l'interconnaissance qu'on peut penser comme un atout. Tout le monde se connaît, donc il y a une forme, en tout cas dans l'imaginaire un peu collectif, il y a une forme de solidarité entre les communautés. Et en fait, au moment où quand on resitue justement cette interconnaissance dans le cadre de violences dans le couple ou de violences intrafamiliales, c'est l'effet en fait complètement inverse. C'est-à-dire que là, ça se transforme en fait en contrôle social quelque part pour ces femmes qui ne peuvent pas briser cette chape de plomb, justement. Briser le silence autour des violences qu'elles vivent, ne pensant pas être crues, tout simplement ne pensant pas pouvoir être crues par l'entourage qui connaît très bien monsieur, qui peut le croiser, ça peut être le voisin, ça peut être des liens très forts, notamment le même médecin traitant, donc qui voit madame, qui voit les enfants, qui voit monsieur, et qui n'a pas forcément repéré qu'il y a des violences dans le couple, parce qu'on sait très bien que le propre de ces violences, c'est que ça se passe en huis clos, et monsieur par ailleurs peut avoir une très bonne réputation, être valorisé dans son travail, justement parce qu'il travaille autour du lieu de vie, ou parce que à travers les clubs sportifs, nous on a eu souvent ce récit là d'un lien très fort entre le conjoint violent et un gendarme qui joue dans la même équipe, ou à travers les enfants, et ces liens là vont venir de toute façon isoler encore plus les femmes. Elles-mêmes vont se dire, ben, dans ce contexte-là, comment je peux imaginer parler et qu'on me croit et puis qu'on me protège derrière. Voilà. Et il y a aussi d'autres formes de double peine, comme on peut aussi des fois l'entendre. Par exemple, quand on a le même métier que son conjoint, donc notamment en milieu rural, ça ne représente pas le milieu rural en France aujourd'hui, mais il y a quand même aussi, notamment, je prends l'exemple des agriculteurs, agricultrices, quand on est sur la même exploitation, c'est très compliqué de quitter à la fois son conjoint, mais aussi perdre son emploi, et donc prendre ce risque qui est impossible finalement. Et il y a aussi la question du logement. Une femme qui part et qui quitte son logement, enfin en tout cas qui envisage de préparer son départ vers un autre logement, en milieu rural c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas de logement d'hébergement d'urgence de toute façon, c'est quasiment inexistant cette offre-là. Donc ça impose un changement radical de vie. Donc aussi, changer la scolarité des enfants, soit son emploi, enfin, tout changement de repère et qui à nouveau renvoie à quelque chose presque de l'ordre de l'impossible. Évidemment, pas toujours, mais en tout cas, c'est très compliqué. Et c'est beaucoup plus complexe qu'en zone urbaine, finalement. Face à ce constat, on a cherché, nous, à apporter donc on parle de réponse citoyenne. En tout cas, on a cette ambition de faire à travers ce réseau de relais ruraux, donc des citoyens et citoyennes qu'on va venir sensibiliser et former sur cette problématique des violences au sein du couple intrafamilial, faites aux femmes, principalement. On va venir leur proposer des missions. Donc il y a trois rôles. Il s'agit d'être un repère, d'être visible, voilà, donc à travers différents outils qu'on leur donne, d'informer autour de leur entourage professionnel, personnel, voilà, et d'orienter les femmes de différentes façons. Ils vont être directement en lien avec une femme ou à travers d'autres personnes, en tout cas de les orienter vers les associations spécialisées.
J'ai été, j'ai eu des courriers et également un colis qui a été élevé dans l'ancienne boîte aux lettres. Je suis passée, j'ai regardé, vous savez, à travers. C'est possible que le gardien.
Venez, je vous en prie. Bonjour, je suis Cécile.
Bonjour.
Voilà, donc là vous avez vu à l'accueil. Alors normalement, c'est moi, j'ai une partie accueil. Mais on se relaie tous en fait. Donc là, elle normalement s'occupe des travaux. Nathalie ici s'occupe de la rédaction des baux. Alors en fait, 3F Occitanie, c'est un bailleur social. L'agence de Carmaux en fait a environ 1200-1300 logements en tout, majoritairement sur le bassin carmozin et un petit peu à Albi. Voilà. Alors nous sommes à peu près 20 km d'Albi, voilà, et la majorité de notre patrimoine c'est ici. C'est une zone très rurale, très rurale. Alors moi ici en fait je suis chargée en fait d'accompagner les demandeurs de logement. Dans leur recherche de logement, je les aide à constituer leur dossier, après j'instruis les demandes et je les passe en commission d'attribution. Comme on a un accueil physique à Carmaux qui est ouvert tous les matins, il y a des affiches, il y a des violentomètres, cyber-violentomètres, violentomètres. On a également un violentomètre sur les violences économiques qui est très intéressant.
Pardon, excusez-moi, qu'est-ce que c'est un violentomètre ?
Un violentomètre, alors, c'est un dépliant en fait qui a une forme verticale. Et ce qui est en vert, c'est ce qui est toléré. Il y a des couleurs clés en fait. Ce qui est en haut en jaune, c'est que c'est Il faut y faire attention. Quand c'est à orange, il faut commencer à être alerté. Il faut commencer à se poser des questions et ne pas hésiter à en parler. Et quand c'est en rouge, alors là, il faut en parler, il faut demander de l'aide et on estime que la personne est en danger, physique ou psychologique, voilà, ou financière, enfin voilà.
Donc vous avez mis de la documentation ?
Oui, j'en ai mis à l'accueil. Il y a également des affiches du relais rural. Il y a également les permanences, les dates de permanence, de la permanence parole de femme. À Carmaux, avec l'adresse, les coordonnées, etc., etc. Voilà.
J'ai beaucoup échangé avec un moine en particulier, et à qui j'ai, une fois que j'ai senti que le dialogue était entièrement possible, que tout était permis de dire. Ça a pris plusieurs semaines, ça. Une fois que j'ai senti ça, j'ai pu... Je lui ai un peu vomi ce que je vivais, des moments que j'avais racontés à personne. Donc j'ai pu déjà lui donner tout ça. Et ensuite, il m'a dit que ça s'appelait des violences conjugales, que c'était pas normal et qu'il y avait, voilà, qu'il fallait se sortir de là. Je suis allée faire une retraite là-bas il y a, je dirais, 5-6 ans. Une retraite pour trouver le silence. Parce que dans la vie de famille et de travail, on ne l'a pas souvent. Et j'ai beaucoup aimé ce lieu. Et donc je savais au fond de moi que si un jour j'étais dans un moment difficile où j'avais plus de ressources, ben j'irais là-bas, trouver du repos. Et donc... Donc j'y suis allée parce que je connaissais le lieu et que je savais que je trouverais exactement ce qu'il me fallait.
Et donc parmi le silence, il y avait quand même la possibilité de parler puisque vous avez pu...
Oui, mais dans un cadre précis, dans des pièces dédiées à la parole, ou dans des jardins parloirs, ils appellent des jardins parloirs. C'est des petits salons aménagés dans le jardin. Après le passage à l'abbaye, il y a eu la prise de conscience de là où j'en étais. Je n'avais pas tellement conscience de la gravité de la situation et de la violence que je subissais. Donc j'ai d'abord pris conscience et puis j'ai pris conscience aussi qu'il allait falloir prendre une décision. Et donc j'ai pris la décision de le quitter. Et heureusement, cette maison est à moi. Et donc moi j'ai pu rester ici avec les enfants.
Après... Est-ce qu'un jour c'est fini ou est-ce qu'il faut toujours être vigilant ?
Ah non, il faut toujours être vigilant. Je crois que jusqu'à la fin de mes jours, il faudra toujours que je sois vigilante. Le début a été, on a cohabité, je dirais, un mois et demi, qui ont été terribles, puisque toutes les stratégies étaient bonnes. Donc il a fallu tenir bon, rester lucide et concentrer sur l'objectif, et puis c'est tout. Mais non, c'est pas simple, non. Enfin, c'est beaucoup mieux. Mais c'est des relations, voilà, on a des enfants, hein, trois fils en commun, donc il faudra toujours gérer le lien pour qu'il soit toujours au service des enfants et c'est tout.
Alors vous, comment vous avez rencontré Parole de Femme ? Comment vous avez commencé cette aventure ?
Alors en fait, c'est ma responsable, Isabelle, la responsable de l'agence 3F de Carmaux, qui m'a proposé en fait d'y participer, puisqu'elle est extrêmement sensible également à tout ça. Parce qu'il faut savoir, quand on est bailleur social, on a parfois l'image d'un bailleur qui encaisse les loyers, mais on est aussi vraiment au cœur des sujets, des gros sujets de société. Et les violences faites aux femmes, c'est un sujet extrêmement important auquel on est régulièrement confronté en tant que bailleur social. Donc elle m'a proposé d'y aller. Alors c'était une journée de sensibilisation et de formation. On était, je me rappelle très bien, on était 17. On a eu une sensibilisation sur l'évolution des droits des femmes dans la législation française. On a également fait un atelier qui nous a permis d'être sensibilisés aux différentes violences. Parce que moi, la première, quand on pense violences faites aux femmes, on pense aux violences physiques. Il y a également les violences psychologiques et les violences économiques. On a vraiment été sensibilisés à tout ça. C'était extrêmement enrichissant. Et une fois encore, et c'est pendant cette journée de formation que j'ai appris qu'elles étaient habilitées à faire ces fameuses notes sociales et attestations de suivi qui me permettent de faire un dépôt de labellisation en urgence auprès de la préfecture, même si ces femmes n'ont pas porté plainte.
Pour les reloger
rapidement. Le fait d'avoir participé à la formation de parole de femmes, ça m'a permis d'avoir des outils réglementaires extrêmement important, ça m'a permis, ça a été vraiment des leviers réglementaires qui m'ont permis de débloquer des situations, beaucoup de situations. En fait, il faut savoir que l'association Parole de Femmes, elle est habilitée à rédiger des notes sociales et des attestations de suivi, parce qu'il faut savoir que les femmes victimes de violences ne veulent pas toujours aller porter plainte. Et en fait, pour prioriser un dossier, il faut qu'elles portent plainte. Et elles ne sont pas toutes prêtes à le faire, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand une femme victime de violence se présente à l'agence, on les oriente vers l'association, et l'association peut nous délivrer une attestation de suivi, ainsi qu'une note sociale, qui peut me permettre par la suite de faire une demande de labellisation en urgence de dossier auprès de la préfecture. Et c'est ça qui permet de vraiment officiellement prioriser un dossier. La préfecture, d'ailleurs, est très réactive à ce niveau-là. On est vraiment une chaîne de solidarité, tout en restant, évidemment, dans la réglementation qui est assez efficace. Et c'est vrai qu'avant d'être relais, on était un petit peu démunis parce qu'il y avait des femmes qui étaient par exemple encore mariées, qui ne voulaient pas porter plainte, qui étaient vraiment seules. Et c'est vrai qu'à part leur dire bah, « porter plainte », on était un peu démunis. Ou aller voir une assistante sociale, parfois elles ne veulent pas, pour des raisons qui leur sont propres. Ou parfois le rendez-vous est tard, parce que pareil, les assistantes sociales aussi ont un emploi du temps extrêmement chargé aussi. Bref, et elles ne veulent pas, et elles sont coincées. C'est vrai qu'on était un peu démunis, franchement. On a vu des femmes repartir, et maintenant, ça, c'est non. Ça n'existe plus, ça. On les oriente, et il y a vraiment des femmes qui ont pu être relogées vraiment rapidement dans les semaines qui ont suivi. Et ça a été... c'est vraiment gratifiant, et pour elles, pour leur reconstruction, et puis pour l'agence aussi, parce qu'on voit qu'on sert vraiment à changer leur vie.
Vous venez d'écouter « Les relais ruraux contre les violences faites aux femmes », un reportage de Claire Cache-Couche-Soucy. Merci à toutes les personnes rencontrées qui ont accepté de partager leurs témoignages. Vous trouverez plus d'informations sur le site de Parole de Femmes 81 et sur la plateforme nationale Solidarité Femmes. N'oubliez pas le numéro d'appel d'urgence, le 3919, gratuit et anonyme, 24h sur 24.
Quartier
de vie.
Retrouvez son podcast sur
www.resonance-sonore.fr.